CFM Radio, bonsoir. Frédéric Moreau du Coq-à-l'Âne. Ce soir, nous partons pour l'année 1966. Une balade dans Paris. A tout de suite. Quand il s'est éveillé, la chambre était plongée dans une semi-pénombre. Traversée par les rayures d'une lumière dessinée par les jalousies, dans lesquelles flottaient des grains de poussière suspendus dans l'espace, comme myriades de galaxies inconnues. Il n'aurait pu dire si c'était le matin ou le soir. Tout ce qu'il savait, c'est qu'ils étaient montés tard, dans la nuit, et que compte tenu de tout ce qui s'était passé, il ne pouvait pas être très tôt. Il s'assura de la main qu'il était seul. Sa main ne rencontra qu'un flot de draps, un rien humide et froid. Il soupira d'aise et de regret à la fois. Ne pas la trouver là le soulageait un peu pour ce qu'il n'avait ni à soutenir un regard, ni à prononcer le moindre mot. Il n'aurait pas su. Ne pas la voir lui pinçait le cœur aussi en même temps. Il avait eu le vague espoir, au fond de son sommeil, qu'une surprise lui ôterait du ventre cette sensation permanente dont il n'arrivait pas à se déprendre. Il se tourna et se mit sur le dos. Une radio à proximité diffusait une chanson de Barbara, quelque chose de triste et rauque à la fois. Il sourit. La tristesse diffuse et la lumière sourde formaient un ensemble si cohérent qu'il trouva une douce et tiède ironie à s'y couler, comme une vieille habitude féline, un cocon rassurant.
Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive, la gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille, au creux des reins. Le mal de vivre, le mal de vivre, qu'il faut bien vivre, vaille que vivre, on peut le mettre en bandoulière ou comme un bijou à la main, comme une fleur en boutonnière. Ou juste à la pointe du sein. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Le mal de vivre, le mal de vivre, qu'on soit de Rome ou d'Amérique, qu'on soit de Londres ou de Pékin, qu'on soit d'Égypte ou bien d'Afrique ou de la porte Saint-Martin. On fait tous la même prière, on fait tous le même chemin, qu'il est long quand on doit le faire avec son mal au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre, on ne peut pas, on n'en peut plus. Alors seul dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense à ceux qui n'en sont pas revenus. Du mal de vivre, de vivre, qu'il devait vivre, vaille que vivre, et sans prévenir, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est promené de rive en rive, de rire en coin. Puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille, au creux des reins.
son sec et constant que fait l'eau projetée d'une douche contre les mailles. Un ray de lumière irisait la moquette grise devant la porte de la salle de bain. Sans réfléchir, il se leva, sans prendre garde à sa nudité. Une cigarette. Une chose à quoi s'accrocher. Se donner un rien de consistance. Reprendre ses esprits. La porte s'entrebâilla. Elle était là, mouillée et nue. Et lui sourit en demandant « Tu as bien dormi ?» Il voulut se couvrir, mais devant son corps à elle, il comprit qu'un tel geste eût été stupide, voire grossier ou insultant. Elle referma la porte et il l'entendit rire sans moquerie, comme si elle voulait lui indiquer que tout allait bien. Elle était encore plus belle qu'il ne l'avait imaginé. Et il fut embarrassé de sentir une érection le gagner. Un peu plus tard, elle revint, les cheveux sous une serviette nouée en turban. Son corps séché et toujours aussi découvert. Elle saisit la cigarette qu'il avait abandonnée entre ses doigts et tira dessus une grande bouffée qu'elle garda un temps qui lui sembla très long. Les yeux mi-clos, sans doute agacés par la fumée, la bouche mi-ouverte en une moue qu'il trouva charmante. Puis, doucement, tout doucement, elle fit sortir la fumée en un long flot continu qui monta comme un brouillard et masqua son visage un court instant. Et là, elle se mit à chantonner, un air qu'il connaissait, mais sans pouvoir en retrouver le titre. Elle s'approcha de lui à le toucher du bout du nez. « Ne t'en fais pas, » dit-elle. « Nous sommes un homme et une femme, et cela me va. »
Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Faire une samba sans tristesse, c'est aimer une femme qui ne serait que belle. Ce sont les propres paroles de Vinicius de Moraes, poète et diplomate, auteur de cette chanson, et comme il le dit lui-même, le blanc le plus noir du Brésil. Moi qui suis peut-être le français le plus brésilien de France, j'aimerais vous parler de mon amour de la samba, comme un amoureux qui n'osant pas parler à celle qu'il aime, en parlerait à tous ceux qu'il rencontre. J'en connais que la chanson incommode, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. Juan Gilberto, Carlos Lira, Dorival Caymmi, Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell, qui a fait la musique de cette chanson et de tant d'autres. Vous avez mon salut. Ce soir, je voudrais boire jusqu'à l'ivresse, pour mieux délirer sur tous ceux que grâce à vous j'ai découvert et qui ont fait de la samba ce qu'elle est. Saraba, Peshinging, Noël Rosa, Dolores Durand, Silvio Montero, tant d'autres. Et tous ceux qui viennent, Edu Lobo, et mes amis qui sont avec moi ce soir. Baden, bien sûr, Ico, Osvaldo, Biggi, Oscar, Nicolino, Milton, Saraba. Tout cela qui font qu'il est un mot que plus jamais je ne pourrais prononcer sans frissonner. Un mot qui secoue tout un peuple en le faisant chanter. Les mains levées au ciel, samba. On m'a dit qu'elle venait de Bahia, qu'elle doit son rythme et sa poésie à des siècles de danse et de douleur. Thank you.
Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur.
Quelle heure est-il ? Sa voix était rauque et mal assurée. Il ne savait que dire. Si peu de confiance, si peu d'assurance et si peu d'espérance. Qu'importe, dit-elle en le tirant vers le lit. Il n'avait envie de rien. La peur l'avait pris et la noyade se dessinait derrière ses grands yeux démaquillés, cette peau blanche qu'il remarqua tout d'un coup, ses seins et son sexe sombre et lisse, ses mains qui en serraient ses bras sans vouloir lâcher, et ce souffle qui lui disait « Viens, viens ». Elle lui rappela soudain une actrice qu'il aimait beaucoup, Anouk Aimée. Et il se souvint de cet air. C'était dans Un homme et une femme. Il pensa qu'il y avait quelque chose d'étrange et fantastique à cette chambre où ils avaient grimpé à l'aube et qu'ils allaient quitter plus tard à la nuit. Une vie pourrait passer ainsi, sans voir le jour. Et il frissonna à cette pensée. Mélange de crainte et d'envie d'une existence enlouée autour de deux corps, dans un même lieu, loin de la lumière, de la vie, comme au fond d'une caverne, avec les sons tamisés du monde extérieur, la présence à distance du monde, et eux deux, mêlés, loin des ressorts douloureux de l'existence. Dans la chambre voisine, quelqu'un chantait un air brésilien, une chanson simple et belle, d'Astrud Gilberto, qui leur arrivait au travers de la cloison. Et là, il pensa à leurs gémissements et à leur corps à corps sauvage, dont les souvenirs lui revinrent, et il s'en voulut un peu à cet instant, bref, pour cette voisine inconnue. se rhabillèrent sans prendre garde, comme un couple habituel, sans gêne ni curiosité. Elle passa une robe orange à col montant et sans manches, par-dessus une paire d'escarpins noirs, puis elle se brossa les cheveux de ses deux mains. Elle enfila un imper mi-long et attendit qu'il eût terminé de se préparer. Emprunté, il tremblait de la sentir là, à l'observer pendant qu'il laçait ses chaussures. Il avait si peur de lui déplaire d'un coup, d'un seul, de l'agacer avec ses manières et ses façons, de la lasser surtout. Ils trouvèrent la rue très animée au sortir de l'hôtel et s'arrêtèrent un instant, surpris et un peu choqués, de se retrouver baignés par tant de bruit et de mouvements. Quant à leur arrivée, tout était silencieux et vide, et que leurs pas résonnaient dans leur tête ivre de tout l'alcool qu'ils avaient absorbé, pour repousser le plus loin possible le moment de se quitter. Et pour finir, ils avaient échoué là, ensemble. Lui, il avait manœuvré une partie de la nuit pour ne pas la voir disparaître comme il le craignait tant, au détour d'un bar ou embarqué par d'autres, attiré par des rires séduisants ou de belles figures. Eux deux, ils s'étaient trouvés en début de soirée, au comptoir d'un bar du côté du Châtelet. Elle lui avait demandé d'approcher le cendrier pendant qu'elle allumait avec lenteur une cigarette. Lui, il lui avait proposé un verre. Ce n'était pas tous les soirs qu'une femme plus jeune lui adressait la parole. Il avait osé parce que sa timidité naturelle était plus que dépassée par l'ampleur de la tristesse qui le véhiculait. La mélancolie donne des ailes, comme le dernier sursaut que donne le corps à un homme qui se noie. Et de fil en aiguille, il s'était regardé se parler. Il avait fait en sorte que leurs pas se mêlent. Et cela avait commencé par un morceau des Kinks qu'il avait sélectionné sur le jukebox, chromé et scintillant.
Sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying. So pleasantly live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime.
My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, save me, save me, save me from this. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the
Pas très au fait de la musique du moment, mais il avait apprécié la façon dont elle s'était légèrement déhanchée au son du rock anglais. Un après-midi ensoleillé, il n'en avait plus vu depuis Belle Durette, évitant au maximum de sortir de sa tanière durant le jour. Ensuite, ils avaient marché en quête d'autres lieux éclairés et assez hospitaliers pour les accueillir quelques instants. Ils avaient remonté la rue Saint-Denis, ils sentaient les halles à portée de nez et les lumières et les bruits leur venir par saccades, à chaque fois qu'il traversait l'une des rues qui menait au ventre de Paris. Les cafés crachaient par grappes des groupes de débardeurs, braillants, sales comme des peignes, ou quelques négociants, l'air sombre et inspiré, plongés dans des contes sans fin, la mine de crayon à la bouche et le carnet en main. Lorsqu'il aperçut les premières prostituées, il se sentit honteux. Non pour lui, mais pour tout cela. La ville, la nuit, les odeurs, le bruit, la crasse et la promiscuité. Comme s'il avait pu choisir un itinéraire plus digne. Il tourna à rue Marie Stuart. D'un boui-boui arabe sortait une musique sourde et un appel répété. Louis, Louis. Il trouva cela inédit. Il s'appelait Louis. Sombre du bas du sentier, il l'avait entraîné vers le quartier des journaux, un de ceux qui jamais de dehors, partagé entre les typos, les journaleux, les ouvriers du livre, les livreurs des messageries et les noctambules en mal de compagnie. L'immeuble de l'Aurore brillait de tous ses feux et les bars de la rue Montmartre étaient ouverts au vent chaud des nouvelles et des filles faciles. Au café noir, il but rosin, au milieu d'une bande de jeunes, en blouson de cuir, accompagné d'une ribambelle de godiche en jupe écossaise, descendue de la Trinité. Ils sortaient tous du concert d'Otis Redding à l'Olympia, et ça discutait fort quant à savoir si ce concert avait été meilleur que celui de James Brown au mois de mars précédent. Certains avaient hâte d'être en novembre, pour voir un certain Jimi Hendrix en première partie de Johnny Hallyday. D'autres juraient leur grand Dieu qu'ils iraient à celui de Jerry Lee Lewis avant Noël. Tous ces noms ne lui disaient trop rien. Il pensa qu'il aurait aimé aller aux adieux de Jacques Brel, lui. Ils ne pouvaient guère se parler dans toute cette liesse et ce tapage, et à cet instant de la nuit, cela lui parut presque divin. Il pouvait se laisser aller un instant sans craindre n'être pas à la hauteur. La jeunesse est un confort pour ceux qui ont vieilli. Elle regardait par en dessous et lui souriait comme pour lui dire « Tout cela n'est pas de notre âge, mais amusons-nous. » Une chanson du tronc monta dans le bar, un autre jukebox sans doute, et tous les gamins se mirent à chanter de concert.
Il y a les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Carville. Qui roulent en Ferrari à la plage comme à la ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait crac boum. Les filles en tombent à mes genoux. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronron au drugstore. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait crac boum. Les filles en tombent à mes genoux. Je ne crains pas les costauds, les supermen, les bébés aux carrures d'athlètes. Aux yeux d'acier, au sourire coquet en Harley Davidson, ils se promènent.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait crac boum. Les filles en tombent à mes genoux. Il y a les drogués, les fous d'usant, ceux qui lisent et ceux qui savent parler. Aux mannequins de chez Catherine Harley, ceux qui se marient à la Madeleine.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait crac boum. Les filles en tombent à mes genoux, je recommence, il fait crac boum. Crac boum. Crac boum.
Encore.
Ça, il connaissait. Il avait même acheté le 45 tours en juillet. Tant il s'était reconnu dans ses mots, dans cette concision, cet humour à froid, cette élégance et cette ironie grinçante. Il remonta à la rue Montmartre. L'air de septembre sentait l'encre et le papier. Du moins, le crut-il. Il avait toujours rêvé d'être de ceux-là, les reporters à la page. Au lieu de quoi, il pigeait pour quelques revues de cinéma et de théâtre en attendant de trouver un éditeur qui voudrait bien d'un de ses manuscrits jaunis et gondolés à force de passer de main en main. Elle se taisait à présent et le suivait avec un peu plus de peine. Elle finit par lui prendre le bras comme le font les couples honnêtes ou les amis complices. Il ralentit. Il n'aimait pas marcher lentement, sa grande taille l'obligeant à avancer vite, au risque sinon de réveiller cette douleur aux hanches qui le rendait furieux, puis neurasthénique, vieux souvenir de guerre. Tant son âge lui pesait à présent. Tout à l'heure, au milieu de ses jeunes, il avait fini par ressentir ce pincement au cœur qui lui disait qu'il avait désormais franchi la frontière, qu'il n'avait vécu plus qu'il ne vivrait et que de ce fait, les jours commençaient à compter. Mais les jours, il ne les voyait pas. Enfermé qu'il était dans les salles de projection ou dans les coulisses d'un théâtre, à essayer de démêler les fils d'argent de la création des vieilles ficelles usées. Et c'était très bien ainsi. À ne pas voir le jour, il pensait échapper à l'inéluctable, quitte à passer à côté de la vie. Fatigué, demanda-t-il, et il s'en voulut à cet instant. Lui demander cela, c'était l'inviter à le quitter. Mais elle rétorqua. Et pourquoi ne pas manger? Manger? Il était peut-être plus de 1 heure du matin déjà. À cette heure-ci? Et pourquoi non, dit-elle en riant si fort qu'il aperçut tout l'abîme. Il hésita. Ah si, je sais, la cloche d'or. Il fut étonné de son à-propos soudain, lui qui toujours hésitait. Une fois parvenu sur le boulevard Poissonnière, il héla un taxi. L'autoradio diffusait un morceau qui lui convenait à merveille. Strangers in the Night, un des titres du dernier album de Sinatra.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night, love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Do-dee-doo-be-doo.
Il aurait voulu être ailleurs avec elle, une ville en hauteur, comme New York. Une ville étrangère où tous deux seraient exotiques. Une ville où il n'y a aucun danger à marcher dans ses traces, ou bien pire, dans celle de l'autre. Une ville où les oreilles étaient étrangers dans la nuit et étrangers au monde. Une nuit pour eux seuls. La cloche d'or, le resto du père de Jeanne Moreau, était à moitié plein. Mélange de fêtards, de girls de Pigalle, de provinciaux en compagnie d'entraîneuses de la rue Fontaine, de macros sénégalais, de bandits corses, de fils à papa entre deux rocs. La viande était insipide, mais la côte chalonnaise se laissait boire. Le garçon lui faisait un gringue d'enfer, sans vergogne ni prévention, comme s'il n'existait pas à lui. Et elle se laissait faire et l'encourageait avec des mots et des mines de minette. Les garçons à Paris ont tous les droits, et de ces privautés qui les rendent invulnérables et insupportables. Le temps joue pour eux toujours. Il aurait voulu la gratifier d'un compliment bien tassé, quelque chose de dur et d'ironique à la fois. Mais il n'avait pas le cœur à cela. Il ne l'avait jamais eu. Cela n'était pas dans sa nature. Il faisait partie de ce monde-là, celui de ceux qui laissent aller, qui se rendent avant le combat pour savoir combien l'amour est irrésolu. Dans ce film de Sergio Leone, qu'il avait beaucoup aimé, même si son esprit penchait pour les westerns américains classiques et manichéens, il y avait ces trois héros sales et méchants, comme dans les comédies italiennes. Et l'un d'eux, joué par ce nouveau visage, déjà croisé, Clint Eastwood, ne cessait de dire que le monde était divisé en deux catégories. Pour lui, il savait, il appartenait à celui des indistincts. Il voulait connaître sa vie, et en même temps, il redoutait de devenir jaloux. Il la connaissait depuis quelques heures, et déjà, il souffrait. En sortant, ils tombèrent sur les derniers accros du rock qui sortaient du bus au Palladium, et en même temps qu'eux, un morceau fort et fou s'est levé dans la nuit. Avoir envie d'elle, là, tout de suite, au milieu des derniers noctambules, dans la fatigue, la transpiration et la laine chargée qui le gagnaient. Elle se hissa à toutes jambes qu'elle avait longues vers la place Pigalle, par la rue du Perret. Tu connais le quartier ? Il n'avait pu s'empêcher de lui poser une question, ce besoin de savoir, d'établir autour d'elle un canevas, la cerner un peu et calmer sa jalousie galopante, se rassurer alors qu'il savait très bien que la réponse risquait fort de le plonger bien plus bas dans un fond d'amertume et d'envie. Un peu. Tu y viens souvent ? Il savait encore que cela ne mènerait à rien, sinon à la faire fuir. Cela m'arrive. Elle avait accéléré comme pour lui échapper, et à ses questions par la même occasion. Toute seule ou... Ça, c'est à lui que ça avait échappé, sans qu'il pût retenir ce qu'il pensait être une énorme grossièreté, doublée d'une connerie sans nom. Que cela pouvait-il bien lui faire ? Et qui était-il ?
Écoute les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non? Semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même, pauvre con. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même, pauvre con.
Et vit son air défait. La colère fit place à la moquerie, et dans un grand rire, elle glissa à un crétin, qui le cingla, comme un coup de fouet que l'on espère plus que l'on ne le redoute. Quand coupable d'une bêtise, on attend une correction qui viendra tout effacer et tout pardonner. Du coup, il trotta léger et rasséréné, derrière elle, comme un gosse, rassuré par l'autorité. On va boire un dernier au Pigalle ? C'était mon idée, lança-t-elle, comme pour bien lui faire comprendre qu'elle avait décidé sans lui. Dans le bar tabac ouvert toute la nuit, son nageait quelques rescapés, la sueur collée aux semelles, et l'air était gluant de tabac. Il acheta un paquet de players et commanda 2 scotch. Il y a des heures pour chaque chose. Le jukebox crachait de l'anglais, encore et toujours.
Come, she's under my thumb. It's all
Avant. Il ne se souvenait plus très bien. La musique n'était pas partout, lui semblait-il. Le morceau, à ce qu'il en entendait, lui parut un rien amer, mais il apprécia le rythme et la voix. Lui revint alors une chanson de Gainsbourg, le dandy qu'il aimait tant, une chanson de circonstance qui faisait in and out. L'heure était au bout de la nuit et il faudrait se séparer. Toutefois, elle était encore là, à ses côtés, à flotter au gré de leur virée. Il se souvint qu'il y avait un hôtel rue de Paradis et que s'il parvenait à y accoster, ce ne serait pas pour y échouer. Alors il lui prit le bras, comme elle l'avait fait un peu plus tôt, et l'entraîna sur le boulevard. Elle se laissa faire et se laissa aller contre lui. La place Blanche avait bonne mine là-bas au loin et il pointait son doigt du côté de Belleville.
C'est ok, tu es. Après quoi, tu es KO, tu es out. C'est idem pour la boxe, le ciné, la mode et le cashbox. Moitié bouillon, ensuite moitié gin. J'ai mini, carbure pas au mazout. C'est extrêmement pop. Si t'es à jeun, tu tombes en syncope. Tu aimes la nitroglycérine. C'est opus, palladium, ça s'écoute. Rue Fontaine, il y a foule pour les petits gars de Liverpool. Barbarelle, la garde tes bottines et viens me dire une fois pour toutes que tu m'aimes ou sinon je te renvoie à ta science.
Tout cela s'était passé la veille, à présent il lui semblait que c'était une vie entière qui aurait pu entrer en lui. Il sourit au coin de la rue, il s'était trompé. La rue du Paradis se finissait en rue de la Fidélité. Un signe ? Il sentait qu'à présent, il pourrait sans doute affronter le jour sans cette sensation qui lui dévorait le ventre, comme si on avait enfermé un couple de crabes affamés. Cette force qui le déchirait à longueur de temps et qu'il devait noyer dans l'alcool et la fatigue. Peu importe, dit-il, elle est là, à mon bras, et je ne la connais pas. Elle est là à mes côtés et ne me connaît pas. Mais elle est là. Il surprit leurs deux silhouettes dans la vitrine d'un quincaillier. Il trouva qu'ils avaient belle allure. Tu habites où ? C'était elle maintenant qui demandait. Et cela l'emplit d'allégresse. Ces trois mots avaient tout le charme d'une déclaration. Un intérêt soudain qui le surprit et l'enchanta. Une promesse en forme de curiosité simple. Du côté des archives. Et il sourit à nouveau, tant cela lui parut désuet. Les archives. Et lui revinrent les dernières images de ce film de Léon qu'il avait encensé dans l'article qu'il avait écrit à son sujet. Ce duel à trois, dans un cimetière, et le plus sot du trio, ignorant du fait que son arme est vide. Spectateur à son insu de sa propre impuissance. C'était lui. Et elle, c'était le bon. Le blond qui lui passerait la corde au cou, tout en le délivrant de ses limites. Oui, le monde se divise en deux catégories. Il était prêt à creuser.